Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et dans les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, les autorités russes affirment que l'armée ukrainienne a frappé en dehors de ses frontières en détruisant un dépôt de pétrole en Russie. Et l'Australie qui vient de signer un accord de libre-échange historique avec l'Inde après des années de négociations, alors même que l'Inde renforce ses liens avec la Russie. Je viens de vous le dire en titre, un dépôt de carburant en Russie continue de brûler après un raid aérien transfrontalier par des hélicoptères apparemment ukrainiens. Le gouverneur de la ville frontalière russe de Belgogor a déclaré que deux hélicoptères de combat ukrainiens avaient attaqué le dépôt qui servait de plaque tournante logistique pour les troupes russes combattant dans l'est de l'Ukraine. Les images des caméras de sécurité vues par les agences de presse internationales montrent un éclair de lumière provenant de ce qui semble être un missile tiré à basse altitude dans le ciel, suivi d'une explosion au sol. Un porte-parole du ministère ukrainien de la Défense n'a ni confirmé ni démenti l'attaque. On l'écoute.
Ukraine is carrying out a defensive operation countering Russian armed aggression in the Ukrainian territory. It doesn't mean that Ukraine should bear responsibility for every blunder and for every disaster and every event that happens on Russia's territory. It's not the first time we see these statements. I will not confirm nor deny this information.
Donc le porte-parole du ministre ukrainien de la Défense. L'attaque ukrainienne sur le sol russe, si elle est confirmée, elle serait la première du genre depuis le début de la guerre, c'était fin février. S'adressant aux journalistes aux Nations Unies, l'ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polyansky, a déclaré que l'attaque sape tout simplement les pourparlers de paix. On l'écoute.
The attacks on the Russian territory, they just reflect the real intention of the Ukrainian side and the real intention for any peace talks and gestures that could lead to certain openings.
C'était l'ambassadeur adjoint donc de la Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polyansky. Sur le terrain, la ville de Mariupol n'est toujours pas évacuée malgré les promesses russes. Les corridors d'évacuation n'ont toujours pas été mis en place. Écoutez, la députée ukrainienne Lisa Vasilenko, elle était de passage en France, elle dénonce les atrocités dans sa ville.
Plus de 90% des bâtiments à Mariupol sont abîmés ou ils sont détruits à un niveau qu'ils sont inhabitables. Les gens, ils passent leur jour et leur nuit au sous-sol parce que c'est la seule place à peu près sécurisée parce que les Russes, ils frappent Mariupol tout le temps. Les atrocités de guerre autour de Mariupol, ils sont terribles. On a des cas de viol, on a des cas où les enfants sont tirés dessus. On a des mamans qui ont perdu des jambes et des mains parce qu'ils étaient en train de sauver leurs enfants par les couvrant avec leur propre corps, parce qu'ils étaient tirés dessus par des soldats. Quand ils sortaient des civils, ils ont été tirés sur le dos. C'est des barbaries, c'est plus que des barbaries. C'est monstrueux ce que l'armée russe fait. Et l'armée russe, c'est pas Poutine. C'est aussi des hommes avec des armes qui tirent sur les femmes et sur les enfants.
Et c'était donc les propos de Lisa Vasilenko, c'est une des députées ukrainiennes, elle était de passage en France donc. Et dans ce climat, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, était en Inde ces dernières heures. L'Inde est l'un des rares grands pays qui n'a pas encore condamné l'attaque des forces russes envers l'Ukraine. Sergueï Lavrov a rencontré le premier ministre indien pour des discussions commerciales, ce qui met en lumière la très forte dépendance de l'Inde aux ressources minières et gazières de la Russie. Sébastien Farcy.
Le mécanisme de paiement en négociation permettrait à l'Inde de payer en roupies pour ses achats et à la Russie de payer en roubles pour les siens. Cela permettrait de dégeler les transactions bancaires entre les deux pays, un blocage arrivé après l'exclusion des banques russes du système bancaire international SWIFT. New Delhi est particulièrement inquiet aujourd'hui car 86% de l'équipement militaire indien est d'origine russe et dans la situation actuelle, il est quasiment impossible d'acheter du matériel ou des pièces de rechange. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ainsi félicité l'Inde de ne pas avoir succombé aux pressions occidentales et de rester neutre dans ce conflit.
Nous apprécions le fait que l'Inde prenne tous les faits en considération et pas de manière biaisée. Nous sommes, comme vous, en faveur d'un monde multipolaire.
La Russie aurait également proposé à l'Inde d'acheter du pétrole à prix cassé, ce qui l'intéresse bien sûr. New Delhi importe 80% de son essence et les prix à la pompe ont explosé. Des diplomates américains et européens à New Delhi ces dernières heures ont toutefois essayé de dissuader l'Inde d'accroître de telles importations, car cela pourrait réduire l'effet des sanctions contre Moscou.
Et c'était un reportage de Sébastien Farcy pour RFI. Alors dans ce climat, eh bien l'Australie et l'Inde vont signer aujourd'hui un accord commercial historique après plus d'une décennie de négociations. Dans le cadre de ce nouvel accord, les droits de douane seront supprimés sur plus de 85% des marchandises australiennes exportées vers l'Inde. Et cela représente tout de même une valeur de plus de 12 milliards de dollars par an. Et de l'autre côté, 96% des marchandises indiennes pourraient entrer en Australie ou pourront entrer en Australie sans droits de douane. Les produits australiens comme la viande de mouton, la laine, les avocats, les oignons, les noix ou encore les fruits sont inclus dans cet accord. Et l'Inde n'est pas d'accord sur l'exportation ou l'importation de bœuf et de produits laitiers pour des raisons culturelles. Le ministre du Commerce, Dan Tehan, a déclaré sur Channel 9 que l'accord représentera un total de 45 milliards de dollars d'exportation d'ici à 2035 vers l'économie la plus grande et la plus dynamique du monde. On l'écoute.
It will help in a big way. So, for instance, for our wine industry, we get preferential access into the Indian wine market that no other country enjoys. For our wool exporters, they get the tariff eliminated immediately, and India is one of our largest export destinations for our wool. Sheep meat, our coal, 0% tariff for coal. All those critical minerals and rare earths.
C'était Dan Tehan, le ministre du Commerce australien. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris se poursuit. Et pour la première fois, des images et des enregistrements sonores ont été diffusés lors de l'audience. Des images choc prises quelques minutes après les attaques. Une journée éprouvante, comme nous l'explique Marine de la Moissonnière.
Des corps presque partout, des corps les uns sur les autres et des traînées de sang, tellement de sang que les semelles des baskets d'un homme sont rouges. Même si on ne peut identifier personne, les images de la fosse où sont mortes la plupart des 90 victimes du Bataclan sont terribles, glaçantes. Dans la salle, un silence de plomb, quelques exclamations étouffées sur les bancs des parties civiles. Certains accusés détournent le regard, fixent le sol. L'un d'entre eux garde les yeux fermés et se bouche les oreilles. Juste avant, la cour a écouté trois extraits de la bande-son de cette nuit d'horreur. Tout d'abord, l'arrivée des terroristes. On entend la musique du concert, puis des tirs en rafale et par à coup, et des cris de peur et de douleur. Les deux minutes d'enregistrement semblent durer une éternité. Le deuxième passage, lui, est très bref. On entend vaguement un otage hurler aux policiers de ne pas rentrer, sinon les terroristes vont tout faire sauter. Le dernier extrait, c'est l'assaut final. On court, on court, on court. Allez, 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 crient des policiers aux otages qui viennent de libérer. Le président annonce une suspension d'audience. Certaines parties civiles quittent la salle en pleurs.
C'était Marine de la Moissonnière pour RFI. Au Yémen, une trêve dans la guerre dans le pays avec toutes les parties belligérantes qui ont convenu d'une trêve de 2 mois pour la première fois depuis 2006. Une trêve qui coïncidera avec le mois sacré musulman du Ramadan. Le conflit qui dure depuis 7 ans entre la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et le groupe Houthi. Ce groupe Houthi est aligné sur l'Iran, a tué des dizaines de milliers de personnes et entraîné l'effondrement virtuel de l'économie tout simplement du Yémen. L'accord négocié par l'ONU stipule l'arrêt des opérations militaires offensives, y compris les attaques transfrontalières. On autorisera par contre les importations de carburant dans la zone tenue par les Houthis et certains vols de passagers à partir de l'aéroport de la capitale de Sanaa. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la trêve doit être la première étape pour mettre fin à la guerre qui est si dévastatrice dans la région.
War has devastated the lives of millions of Yemeni women, children and men. It is difficult to imagine the extent of their suffering, which has mainly taken place far from the media spotlight. The war has fueled one of the world's worst humanitarian crises, brought state institutions to the verge of collapse, reversed human development by 2 decades, and threatened regional peace and security. Today must be the start of a better future for the people of Yemen.
C'était les propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les dirigeants des Premières Nations du Canada ont exprimé leur gratitude au pape François pour ses excuses pour l'injustice qu'ils ont subie de la part du système d'éducation catholique donc dans le pays au Canada. Des dizaines de membres des communautés métisses, inuits et des Premières Nations du Canada se sont rendus à Rome pour entendre le discours du pape qui a déclaré qu'il prévoyait de se rendre lui-même au Canada en juillet pour présenter ses excuses officiellement aux personnes et aux autres survivants. Je vous rappelle que plus de 150 000 enfants autochtones canadiens ont été forcés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par l'État au 19e siècle jusqu'à en fait la fin des années 1970 dans le but de les isoler de l'influence de leur foyer et ainsi de leur culture. Le président de l'Inuit Taparekit Kananami déclare que les excuses papales sont une étape sur la voie de la justice et de la réconciliation. On l'écoute.
Behind the lies, behind the lack of justice, this Pope, Pope Francis, decided to go right through it and decided to speak words that First Nations, Inuit and Métis have been longing to hear for decades.
13h12, coup d'œil météo pour l'Australie à travers cet après-midi. Perth, il fera 30 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 19 et de la pluie à Melbourne, je le vois par la fenêtre. À Hobart, il fait 17, à Canberra, il fera 17 également, 22 degrés et quelques averses à Sydney. Et il fera 28 degrés à Brisbane, Cairns 31 degrés et comme toujours, la palme de la température revient à Darwin avec 34 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité. Donc pour aujourd'hui, en ce 2 avril 2022, la guerre en Ukraine pour la première fois. Depuis le début de ce conflit, les autorités russes affirment que l'armée ukrainienne a frappé hors de ses frontières en détruisant un dépôt de pétrole en Russie. Et on l'a vu également dans ce journal, l'Australie qui vient de signer un accord de libre-échange historique avec l'Inde. C'était après des années de négociations, alors même que l'Inde renforce ses liens pour le moment avec la Russie.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.